much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Et c'est l'heure des arpètes. Chaque mois, on décrypte un nouvel enjeu de société au travers d'un essai, avec l'aide de nos invités. De la vulgarisation, des échanges d'idées, des découvertes et des rencontres, les arpètes, c'est votre brunch curieux du samedi midi pour nourrir nos réflexions, construire une culture commune et comprendre un peu mieux la société dans laquelle nous vivons. Et c'est tout de suite sur Prune. Bonjour peuple de Prune. Et bienvenue dans une nouvelle émission des arpètes, l'émission où on met en pratique le principe de l'arpentage, une technique d'éducation populaire pour découvrir ensemble un livre qu'on se partage en pages égales entre participantes et participants et dont on vous fait la restitution à l'antenne.
Si vous écoutez assidûment l'émission, vous avez compris peut-être que le travail est un sujet qui nous passionne et qu'on a envie de questionner. Depuis le début de cette première saison, on tourne un peu autour du pot. On vous a parlé de travail agricole, du travail en ESAT, du travail du sexe. Alors aujourd'hui, banco, on va y aller franco et vous parler du travail tout court. Ou plutôt du détravail, mais ne soyez pas impatientes, on y vient.
Vous écoutez Les Arpètes et je suis Lilia, heureuse future chômeuse dans pas loin de 3 mois, 25 jours et approximativement 6 heures.
Et je suis Enora, chômeuse en devenir dans 56 jours et 4 heures au moment où nous diffusons cette émission. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Myriam Hammer.
Bonjour.
Myriam, tu es membre du collectif Travail et Moins depuis plus de 3 ans et actuellement au chômage.
Exactement, et fière de l'être.
Il y a avec nous aussi David.
Bonjour.
Tu es également membre du collectif depuis 1 an et au chômage également.
Exactement.
Le collectif Travail et Moins, c'est un collectif informel nantais créé en 2017. Collectif informel parce que, je cite, c'était trop de travail administratif de créer une association.
Il ne faudrait pas se fatiguer.
J'adore cet état d'esprit, c'est très, très arpète compatible. Vous travaillez quand même pas mal parce que vu les programmes de qualité que vous proposez pour des journées comme la journée du détravail qui s'est déroulée en février dernier à Nantes, il y avait des conférences, des discussions, des retours d'expérience, des débats. Et vous créez par ce collectif les espaces nécessaires à la rencontre et à la réflexion autour de ces sujets. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être présent et présente aujourd'hui pour nous aider à défricher le sujet du travail. Ça nous taraude et ça a beaucoup été au centre de nos discussions ces derniers mois, autant à l'échelle de la lutte collective qu'à une échelle plus personnelle, sur ce que ça représentait pour nous, ce qui nous anime, ce qu'on avait envie de faire de nos vies.
Parce que toute notre vie est tendue vers le travail, organisée autour. À 5 ans, on te demande déjà ce que tu veux faire comme métier plus tard et on porte un jugement sur tes rêves d'enfant en y plaquant des considérations économiques et étriquées. Quoi, tu vas être saltimbanque ou éleveuse d'émeux ? Non mais trouve d'abord un vrai métier, tu verras ensuite. De plus en plus, même les études générales sont centrées sur la professionnalisation. Elles ne sont plus faites pour la curiosité et l'éveil, mais pour acquérir des compétences utiles sur le marché de l'emploi. Et les études déjà professionnalisantes ne permettent plus d'avoir ces espaces de critique, de questionnement et de curiosité. On cherche à faire des travailleuses dociles et pas des citoyennes et des citoyens.
Le travail conditionne notre position sociale dans notre système. On l'a même hissé au rang de valeur, la fameuse valeur travail, pour mieux décrédibiliser celles qui souhaiteraient en sortir ou du moins le questionner. D'ailleurs, quand j'écris « détravail », mon clavier le corrige en « dépravait » et je trouve que ce n'est pas anodin. La valeur travail est bien ancrée dans notre culture occidentalo-libéraliste et celles qui ne travaillent pas seraient que des dépravés.
Bon, c'est aussi que ton ordi est de droite, hein, fallait l'acheter en reconditionné.
En plus de tout ça, ces dernières années, on a un peu eu l'impression que l'ambition du gouvernement est de réduire le code du travail à un feuillet A4. La loi El Khomri, la réforme des retraites, une allocation chômage réduite et de plus en plus difficile à percevoir, un RSA conditionné à 15-20 heures de travail hebdomadaire, baisse des indemnités prud'homales, autant de raisons, s'il en fallait, de faire une petite pause pour réfléchir un peu à notre rapport au travail et à ce que l'on souhaite pour notre avenir professionnel ou avenir tout court d'ailleurs.
Si je parle à mon mini-moi de quand j'avais 5 ans, période capillaire Mireille Mathieu, je me répondrais de me laisser construire des cabanes et jouer avec mes Playmobil et que les adultes c'est nul et ça comprend rien à ce qui est important dans la vie. Et ce qui importe, si vous voulez tout savoir de mon programme politique de l'époque, c'est les copains, lire et s'amuser. Eh bien, c'est en gros ce que dit Giuseppe Renzi dans son livre « Contre le travail » paru en 1923, joyeux anniversaire d'ailleurs. Il est paru à l'origine sous le titre « Il lavoro », le travail en italien, et c'est une proposition de lecture de nos invités pour changer.
C'est donc ce bouquin que nous nous sommes partagés, Lilia, Myriam, David et moi, selon la méthode de l'arpentage, comme toujours. Et pour une fois, j'ai pas eu trop de scrupules à avoir déchiqueté un livre et vous allez vite comprendre pourquoi. Trêve de blabla et place à la restitution de notre arpentage.
Pour la première fois, j'ai subi la partie arpentage version rando vénère. J'avais l'impression de grimper à pic le GR20, mais avec des sandalettes d'arpètes et des ronces partout. Donc premier coup de piolet en plastique, avec la préface de Gianfranco Sanguinetti, qui est un théoricien révolutionnaire italien actuel. Il nous présente l'auteur de l'essai Giuseppe Renzi comme un adversaire farouche du fascisme dès ses prémices, et philosophe et politique intègre et avant-gardiste. L'écrivain Sanguinetti propose la pensée de Renzi sur le travail comme un antidote au néolibéralisme de notre époque. Bon, tu lis ça des étoiles plein les yeux, et puis, piqué par la curiosité, tu vas voir la page Wikipédia de Monsieur Renzi. Oui, pardon, mes profs d'histoire, mais parfois ça sert et j'ai double fact-checké. Et là, tu vois qu'une historienne italienne spécialiste de la construction du fascisme dit de lui qu'il a été un bailleur de fonds du fascisme naissant, parce que dans un tract de 1920, il prônait, je cite, la mise en place d'une autorité politique unique, soutenue par la force physique, dans le but d'établir l'ordre dans la société. Voilà, voilà. Et note pour plus tard, rester sur des bouquins de wokistes de notre siècle pour pas se faire avoir. Mais allez, je vais faire ma bonne élève et vous arpenter tout ça sans œillère. Le livre commence par ces mots. Le problème du travail, qui sonne déjà comme une promesse alléchante. Tout au long des premières pages, Renzi développe une même idée, avec moult formulations différentes, comme ce gars en cours qui lève la main pour te dire « Non mais c'est pas une question, c'est plus une remarque » et monopolise la parole pendant 5 minutes. On en retient quand même l'idée principale, très intéressante et qui sous-tend l'ensemble de la partie que j'ai eue, c'est le caractère fondamentalement contradictoire de notre rapport au travail. Le travail salarié est perçu, à l'époque et encore aujourd'hui, comme une obligation morale. On cherche donc à s'y inscrire par nécessité économique et morale, mais à y échapper par souci de ne pas gâcher sa vie à la gagner. Pour Renzi, on vit en gros une contradiction permanente. Il l'analyse aussi comme un phénomène de classe. C'est eux qui ne veulent plus travailler, arrêtent, mais trouvent que le travail c'est indispensable, donc font travailler d'autres gens, alors qu'ils n'aimaient pas le travail et leur disent que si, le travail c'est nécessaire et pas si pire, et donc ils profitent de ce travail sans travailler. C'est clair, non? Et coucou les actionnaires et les patrons, et puis rendez l'argent aussi. Et pour faire un lien avec notre actualité casserolante, aka la lutte contre la réforme des retraites et les revendications de l'intersyndicale, elles illustrent au moins en partie une théorie de Renzi, qui est que lorsqu'on soulève le rideau de velours de la grande moralité du travail, on y voit toute la face parfois aliénante, souvent difficile, toutes les mauvaises conditions subies par les travailleuses pour que fonctionne le capitalisme. Et c'est aussi lorsque tout ça est mis au jour que, soudain, la classe dominante va ressortir sa valeur travail, avec un V majuscule, parler de revalorisation du travail, de reconnaissance, pour tenter encore de plier les travailleuses au sacrifice pour le bien de la société. Et pousse, là, il faut que je vous partage ma fatigue à déchiffrer ce bouquin. Déjà, j'ai envie d'envoyer un tuto sur les retours à la ligne à la maison d'édition Alia, parce que ce bouquin est une succession de pavés compacts de 4 pages, bourré de concepts philosophiques parfois très opaques. Et pour le coup, je n'ai pas eu beaucoup l'impression de détravailler en préparant cette émission, avec l'effort fourni en compréhension et vulgarisation. Mais reprenons. On arrive à la thèse principale de Renzi, et tout le monde déteste le travail. Tant ceux qu'il appelle la classe laborieuse que la classe non laborieuse. On arrive à la fin de ma partie avec la pensée « le travail et le jeu ». L'idée peut être belle, car l'auteur fait la différence entre travail et jeu en affirmant que le jeu est fait pour le plaisir qu'il procure, sans autre finalité, et qu'il est la destinée de l'être humain. Et si l'humain se réalise par le jeu, alors je veux jouer les arpètes au moins 24 heures par semaine. Mais vous l'avez compris, on est dans un écrit daté et ça se transforme pour moi en un gros mépris de classe. L'auteur va faire les louanges de la figure de l'artiste, du scientifique, du philosophe et du journaliste, qui sont souvent plutôt accaparés par la classe dominante, parce qu'ils s'arrachent à l'appât vil du gain ou aux conséquences sur autrui pour s'élever dans une autosatisfaction déconnectée. Il leur oppose les travailleuses qui le font sous la contrainte comme châtiment. Mais quid alors de celles qui choisissent de se mettre au service des autres, que ce soit pour les soigner, les nourrir, les éduquer, les amuser ? Ah non, pardon, c'est les femmes qui font ça. Grandes absentes de son questionnement. Du coup, j'imagine qu'elles font tenir le reste pour que ces messieurs continuent de changer le monde. Et puis, ce qui m'a manqué aussi, c'est que c'était une vision et une pensée seulement sur le travail, quand aujourd'hui les idéaux écologistes viennent renforcer l'idée de travailler moins en accord avec le bien-être humain, mais aussi le bien-être de la planète. Et c'est ce que défend par exemple le journaliste et philosophe André Gortz dans une grande partie de ses essais, et qui est essentiel dans la lutte aujourd'hui. Mais on en parlera évidemment pendant la discussion avec nos invités, et c'est avec ça que je te laisse le micro, David.
Merci. Alors j'ai parcouru donc mon chapitre, c'est mon premier arpentage. Le chapitre commence un peu comme une leçon de philo. Ça commence en dur, il cite Kant. Et la première question qu'il pose, une question de philo, à savoir, le travail est-il une fin ou un moyen ? C'est-à-dire, est-ce que c'est le travail qui doit s'adapter à la vie ou est-ce à la vie de s'adapter au travail ? Et cette question-là, moi, a fait écho à des choses à l'actualité du moment, à savoir, comme nous vivons plus longtemps, devons-nous travailler plus longtemps ou simplement devons-nous vivre tout simplement ? Donc, il pose déjà cette question de la finalité du travail ou du moyen. Ensuite, il enchaîne sur une comparaison radicale entre l'esclave et le travailleur, ce qui est quand même... Une comparaison osée. Il faut rappeler que le bouquin date d'il y a 100 ans. Et pour Enzi, la seule différence entre l'esclave et le travailleur, c'est la quantité de travail. Et donc, ça fait appel aussi à la question du moment, savoir est-ce qu'on doit travailler jusqu'à 60, 62 ou 64 ans. Donc, c'est-à-dire que pour lui, sa vision, elle est radicale. Travailler, c'est être esclave. La seule différence, c'est que simplement lorsqu'on est travailleur, dans le cadre du salariat, on travaille moins qu'un esclave. Donc il a cette vision, et dans ce chapitre, il continue à déconstruire cette notion du travail. Donc il déconstruit que l'idée que le travail est une source d'émancipation. Lorsqu'il donne sa définition du travail, c'est que le travail consiste à ne pas agir à sa guise. Il affirme que nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, mais pour autrui, que ce soit pour une entreprise ou pour une nation, et que le travail n'est qu'une contrainte et une entrave à la réalisation de soi. Donc, 100 ans auparavant, il questionne déjà à fond cette remise en question de la valeur travail, cette question qui est plus qu'actuelle. Et pour finir ce chapitre, il compare le travail à un cheval à qui l'on met des œillères pour qu'il puisse tourner la roue d'un puits. Donc dans ce deuxième chapitre, s'appelle « Travail et contemplation », donc ce qui est l'antithèse de cette première approche du travail. Et il aborde cette notion qui est au centre de son œuvre, à savoir le jeu. Alors, qu'est-ce que c'est le jeu ? Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la contemplation, ça peut être la réflexion, ça peut être même l'ennui. C'est-à-dire, lorsqu'on s'ennuie, ça peut être aussi une source de créativité, d'introspection. Et toute activité. Et donc, pour lui, le jeu, c'est toute activité réalisée par soi-même et pour soi-même. Et donc, le jeu, pour lui, est totalement opposé au travail. Et cette question du jeu, moi, ça a fait écho au confinement, cette période que l'on a traversée, où on s'est retrouvé, contraint de ne pas travailler, où on s'est retrouvé tous vis-à-vis de soi-même. Et le jeu, en fait, c'est toutes ces activités autonomes. Ça peut être la musique, le chant, la lecture, le sport, le bricolage, ça peut être faire une pâte à crêpes. Et donc, simplement, ça veut dire réinvestir son propre soi être dans une période et dans une phase d'introspection. Et là, on est 3 ou 4 ans après le confinement, et on ne sait toujours pas, on n'a toujours pas quantifié. On revient à cette idée de quantification, de savoir quels impacts ont eu cette période de confinement et de cette période d'introspection sur le monde du travail. Moi, je fais simplement un lien après cette période post-confinement. Il y a eu ce qu'on appelle la grande démission aux États-Unis, où d'un seul coup, bah voilà, les travailleurs ne voulaient plus faire des travails de merde, des bullshit jobs, comme on dit. En France, le phénomène a peut-être été moins, mais on a parlé aussi des désertions, de tout ce qui est du travail dans la restauration, où d'un seul coup, les gens bah, n'ont plus envie, pour le SMIC, de sacrifier leur week-end, leur soirée, leur week-end, leur vie sociale. Donc, moi, cette thématique du jeu qu'il abordait, c'est la question que je me suis posée, savoir sur les effets de ce confinement, cet effet de post-confinement, quels effets ça a eu sur notre rapport au travail. Lorsqu'il parle du jeu, et donc dans cette période de réflexion, il dit « Dans l'inaction attentive et recueillie, notre âme efface ses plis ». Et je trouve cette phrase très belle. Tout à l'heure, par rapport à la première partie, je suis d'accord aussi qu'il y a des parties un peu longues et un petit peu chiantes dans ce livre, mais il y a aussi ces petits moments de poésie. Il parle aussi, il évoque aussi cette notion de construction sociale à travers le travail, qui encore, je trouve, assez moderne. Le livre a 100 ans, où il dit que la civilisation condamne l'oisiveté. Donc moi, ça a fait écho à pas mal de choses sur la méritocratie, sur cette notion de travailler dur pour réussir sa vie, à la stigmatisation des chômeurs, c'est-à-dire les considérer comme des profiteurs et non comme des victimes. Donc voilà, il aborde tous ces thèmes de la valeur travail qui sont fortement actuels. Et il évoque aussi la notion contemporaine de carrière. Je ne savais même pas qu'on parlait de carrière en 1923, de carrière professionnelle, bien entendu. Et quand il parle de carrière professionnelle, il parle de le carton peint de notre vie pratique. Je trouve ça très beau. Et pour finir sur ma partie, il évoque un dernier thème qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il évoque notamment l'industrie. Et je le cite, « Si j'admire les conquêtes de l'industrie, c'est surtout parce qu'en nous affranchissant des soucis matériels, elles donneront un jour à tous le loisir de contempler la nature. » Donc, c'est-à-dire que pour lui, l'industrie, la mécanisation, la robotisation et tous les progrès techniques allaient alléger le travailleur de sa quantité de travail pour nous donner plus de temps de contempler la nature. Et en 2023, on fait pas mal de liens, je pense, entre le travail et l'écologie. Et non seulement l'industrie ne nous permet pas de contempler la nature, mais on le sait, l'industrie est la raison principale de la destruction de la nature et de l'environnement. Voilà.
Alors moi, je ne vais pas m'en cacher, j'ai adoré le livre, tout simplement parce que c'est moi qui vous l'ai proposé. Non, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que justement, il a 100 ans. Et je trouve qu'il y a peu d'écrits finalement qui posent une telle critique, qui reste très centrée sur les personnes, l'individuel, mais finalement il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pour ça que j'aime bien cet écrit personnellement. Et mon passage y commençait parfaitement pour ma personnalité, car en plus d'être une militante des travails, je suis une militante pour le sommeil. Je trouve que c'est hyper important et on n'en parle pas assez. Et dans son livre, l'auteur, il nous présente sa vision d'une journée hygiéniste. C'est-à-dire une journée pour être en bonne santé pour l'être humain. Ce rythme, c'est ce qu'il nomme l'ordonnancement rationnel de l'existence. Pardon. Ça commencerait par une bonne nuit de sommeil de 8h30. Et ce passage m'a fait repenser au premier quinquennat de Macron. J'entendais souvent des personnes vanter le fait qu'ils ne dormaient que 4 ou 5 heures. Et je trouvais que c'était assez fou. J'entendais plein de gens dire que c'était un homme qui aimait l'effort, qui bossait, qui ne dormait pas. Et c'est un truc qui m'a toujours surpris chez certaines personnes, c'est ce plaisir qu'ils ont à dire qu'ils ne dorment pas et qu'ils bossent énormément à la place de dormir. Mais en fait, c'est hyper dangereux, c'est très mauvais pour la santé. Donc merci Renzi de reposer les bases, il faut dormir 8h30. L'auteur aborde aussi le fait de manger, de faire de la gymnastique, de lire, de prendre son temps, de se balader. Ça m'a fait aussi penser à un truc assez actuel, c'est le chiffre de la sédentarité en Europe qui vient de sortir là sur Le Monde, qui n'a jamais été aussi bas. On parle, enfin aussi haut, on ne fait plus aucun sport, on n'en marche plus. On parle de graves répercussions sur la santé, de catastrophes sanitaires. Les médias incriminent les écrans, c'est vrai. Mais je suis surprise de n'entendre aucune voix s'élever sur le travail. Alors qu'on le voit bien, les gens n'ont pas le temps. Ils sont conscients des injonctions à faire du sport. On nous dit il faut faire du sport, c'est important pour la santé. On le sait. Mais les gens n'ont pas le temps parce que la centralité du travail fait qu'ils n'ont aucun temps pour faire autre chose. En tout cas, l'auteur, dans son rythme idéal, il place le travail en dernier. C'est ça que j'ai trouvé ça intéressant chez lui. Ce qui est assez logique d'ailleurs, car ce n'est pas le propre de l'être humain de travailler. Et d'après lui, si on reprend sa grille dans le livre, là, il ne resterait qu'1h30 dans la journée pour travailler, après avoir fait toutes les autres choses. Soit dit en passant, il trouve ça déjà beaucoup trop. Et j'ai trouvé ce chiffre extrêmement intéressant, puisque c'est un chiffre qui est pensé pour la santé humaine, mais on peut aussi mettre ce chiffre en perspective avec l'écologie. Notamment les chiffres du cabinet Autonomie, qui a calculé le nombre d'heures qu'on devrait travailler pour respecter les recommandations du GIEC. Pour un pays industrialisé comme l'Angleterre, ça serait 9 heures par semaine. Pour un pays comme l'Allemagne, 7 heures par semaine. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que Renzi, il fait un calcul qui est assez individualiste pour l'humain, mais ça correspond à quelques chiffres pour l'environnement. Donc presque de manière pragmatique, individuellement ou collectivement, il faut vraiment qu'on réduise drastiquement le temps de travail. Un tout autre élément que j'ai trouvé intéressant dans sa pensée, c'est qu'il réfute complètement l'idée que l'outil de production doit appartenir aux ouvriers. C'est une idée qu'on entend vraiment assez souvent dans le communisme ou le socialisme. La question que l'auteur pose, c'est si l'outil appartient aux ouvriers, est-ce qu'ils vont vouloir faire ce travail? C'est vraiment une question qu'on ne pose jamais. On dit toujours qu'il faut absolument que les salariés luttent pour récupérer leur outil de production, mais est-ce qu'ils ont vraiment envie de travailler? Et lui, sa réponse, c'est non. L'auteur, il considère que les ouvriers n'aiment pas le travail. Et il donne un super exemple que j'ai beaucoup aimé, c'est il cite l'assurance maladie de son époque, et il montre en fait qu'il y a plusieurs salariés qui ont droit à une certaine assurance avec tant de jours de maladie par mois. Et en fait, ils font exprès de tous les utiliser parce qu'ils ne veulent pas en donner un seul à l'organisation. Contrairement à l'époque de l'auteur, aujourd'hui, j'ai l'impression, au contraire, qu'il y a des gens qui revendiquent le travail. Et c'est là aussi, on peut se demander pourquoi, quelles évolutions il y a eu entre l'auteur et nous. Et c'est pour ça que je trouve cet ouvrage vraiment intéressant. C'est qu'il y a à la fois des choses très proches, mais aussi des choses très éloignées et pas dans le bon sens pour notre époque. Pourquoi nous, est-ce qu'on aime la valeur travail? On peut se poser la question. Il y a évidemment l'injonction médiatique qui est rabâchée depuis Sarkozy à longueur de journée sur à peu près tous les médias. Moi, je me suis demandé si ce n'était pas aussi un manque d'habitude hors du travail. Que faire hors du temps de travail et que faire de notre temps libre? Beaucoup de personnes se sentent désœuvrées face au temps libre. Et là, je vais mettre en perspective avec une autre idée de l'auteur. Parce que c'est vrai que David disait que l'auteur ne parlait pas forcément de la destruction environnementale. Mais par contre, dans ma partie, il parle beaucoup de la ville et il critique beaucoup l'urbanisation. Et là, c'était assez intéressant. Il considère que la ville, elle est responsable d'une déperdition de l'intérêt général. Il explique que le fait qu'on ne connaisse pas ses voisins, qu'on soit un inconnu dans la ville, ça casse la morale. Comme on ne connaît plus les gens, on est capable de tout leur faire, finalement. Et donc, de mon côté, mais ça, c'est un constat qui n'a pas été prouvé, c'est juste quelque chose que je remarque. J'ai l'impression que la ville, elle nous rend incapables de gérer notre temps libre, et surtout un temps libre hors de la consommation. Et nous, avec le collectif Travail et Moins, ce qu'on voit, c'est que pour être hors du travail, il faut être aussi hors de la consommation et vice-versa. Pour être hors de la consommation, il faut être hors du travail. Voilà, c'est un peu un cercle. Donc c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le livre. C'est qu'il aborde plusieurs petits sujets qui sont à la fois contemporains et en même temps qui montrent aussi une évolution de notre société qui n'est pas forcément dans le bon sens. Et je voulais finir avec quelques lignes de l'auteur qui représentent l'état d'esprit de notre collectif Travail et Moins. On ne veut plus travailler. Et c'est juste du point de vue de la raison. On a raison. Parce que le travail est anti-spirituel, contraire à l'essence et à la destinée humaine, incompatible avec la dignité humaine, destructeur de l'autonomie humaine, esclavagiste. Tel est le travail, en lui-même et toujours. Pourquoi dois-je, moi, être condamné à la tâche grossière de manipuler un marteau-pilon ou de faire fonctionner une machine, fût-ce quelques heures par jour et pour un bon salaire.
Ben, c'est drôle parce que du coup, après vous avoir écouté, j'étais partie sur un point de vue négatif vis-à-vis du livre et vous me redonnez envie de le lire alors que j'étais presque dégoûtée de ma lecture parce que c'était vraiment presque... Enfin, c'est le livre le plus hardcore qu'on ait eu à lire pour les préparations d'émission de cette saison. Je propose que pour la prochaine, on lise l'histoire de la petite taupe qui se fait faire caguer sur la tête. Ce sera moins de travail et ça ira plus dans le sens de nos ambitions. Je pense que j'ai eu pas mal... de difficultés à lire parce que déjà j'ai un niveau lycée en philo et que grosso modo une page égale une phrase, donc je vous lirai pas trop d'extraits à l'antenne parce que c'est pas très radiophonique de faire une crise d'asthme par manque de ponctuation. J'ai démarré ma lecture sur les dernières pages du coup du chapitre l'insurrection contre le travail qui m'a plutôt plu parce que comme vous en parliez ça conclut sur l'opposition entre travail contraint et travail jeu. D'un côté, le travail qu'on ne fait pas par inclination naturelle, mais par contrainte, genre pour gagner des sous, ou manger, ou se loger. Et de l'autre côté, le travail-jeu, de la science, de l'art, de l'étude, toute activité pratiquée pour elle-même et pour la jouissance qu'on en retire. Donc ça, c'était la partie facile avec laquelle je suis volontiers d'accord. Mais après, ça se corse, on passe sur la partie travail et esclavage. Tu en as déjà un peu parlé, David. Le travail, c'est l'esclavage, ça, il n'y a pas de souci, je suis hyper d'accord. Mais par contre, après, il part sur des bails un petit peu plus sombres. Mais bon, il faut remettre le livre dans son contexte aussi. Il donne raison à Aristote qui avance l'idée qu'il y a des humains esclaves par nature pour lesquels c'est un avantage d'être soumis à une autorité. Sinon, il et elle sombreraient dans le vice. Du coup, là, j'ai un peu levé les sourcils tellement haut qu'ils ont fusionné avec mon cuir chevelu. Mais bien qu'il ne soit pas le plus grand des wokistes, il conclut quand même que le travail, c'est toujours l'esclavage, quelle que soit la façon dont la contrainte est exercée, que ce soit du travail imposé par la force ou par une menace économique. Ça reste de l'esclavage. Ce chapitre se termine sur une note d'espoir avec une phrase qui donne tout bonnement envie de crever, je cite. Le travail et l'esclavage, la nécessité du travail est immuable. Par conséquent, l'esclavage est et sera et devra être immuable. Face à cette vérité, il n'est pas d'issue.
Chouette.
Ouais, là j'ai dessiné un petit bonhomme qui pleure dans la marche du je pense que ce qui a été le plus difficile avec cette lecture aussi, c'est que j'ai été souvent outrée par le déroulé de ces réflexions, notamment avec cette histoire d'esclaves par nature et d'autres trucs aussi avec des... Bon, je vais passer les autres trucs, mais j'ai beaucoup bugué sur des déroulés de réflexion et parfois, mais la plupart du temps, j'étais quand même d'accord avec les conclusions qu'il en tirait. Donc c'était vraiment désarçonnant. Et après, ça se corse encore plus parce qu'on passe sur le chapitre sur l'inexistence du droit naturel et le renversement de CIS. Et je ne sais pas qui est cette personne. Je pense que je manque de rêves philosophiques. Et là, j'étais complètement larguée. C'est du name-dropping à tout va, des phrases hyper longues. Alors, plutôt que de mal résumer un propos que je ne comprends pas très bien, je vais plutôt vous partager ma douleur avec un extrait choisi que j'ai décidé de mettre en perspective avec un objet culturel nettement plus contemporain, vous allez voir. Ouvrez les guillemets. Si l'on tente d'admettre une telle argumentation en faveur du droit naturel ou rationnel, une petite difficulté se présente. Elle ressort de l'éternelle scission que l'on ne saurait combler de la raison en elle-même, du fait, autrement dit, que la raison émet les postulats les plus contradictoires et inconciliables. Ou si l'on veut, à employer une autre expression, du fait qu'il n'existe pas une raison, mais bien de multiples raisons diverses qui se révèlent toutes au même titre de la raison. Et pourtant, quoique tout également raison, elles se contredisent tant et si bien que l'on peut affirmer qu'aucune ne l'est, qu'aucune ne saurait prétendre pour elle-même et de façon exclusive au titre de la rationalité.
Il n'est peut-être pas déraisonnable d'envisager que je ne dise pas ou tout comme que ce soit quasi partiellement incorrect. Il n'est pas absurde ou coussi-coussa d'envisager l'idée ni sainte ni grenue que, somme toute, de manière ni plus ou moins aléatoire, je sache en
idée...
Oui, il suffit, Renzi. Tu m'as complètement perdu dans les méandres de tes réflexions contradictoires. Je vais quand même essayer de vous résumer un peu le propos de ce chapitre final, parce que c'est quand même la conclusion du livre. Mais n'utilisez pas ce que je dis dans un devoir de philo, parce que je ne suis pas sereine. En gros, pour démontrer que la question du travail est insoluble, Renzi prend un peu de hauteur et va questionner plus largement les principes du droit, de loi et de justice. Pour lui, il n'y a pas de justice absolue. Le droit et la loi ne sont donc que la conviction intime et inébranlable d'avoir raison d'un mec qui arrive à l'élever au rang de loi parce qu'il est soutenu par la force prédominante. Donc les riches, hein, on ne va pas se mentir. Donc il n'y a pas de justice absolue, l'idée de droit et de justice sera toujours imposée par les plus puissants, et donc par extension, il ne peut pas y avoir de travail juste pour tout le monde, les révolutions ne feront que changer la forme et la contrainte sous laquelle ils s'exercent. Donc on peut conclure que Contre le travail formule une critique vive du travail, mais n'apporte pas de solution, parce que selon Renzi, il n'y en a pas. C'est immuable, comme je l'ai dit plus tôt. Mais bon, pour pas tous te sombrer dans la dépression après cet arpentage un peu douloureux, pas pour tout le monde, mais pour moi et Lily un petit peu quand même, on va faire une petite pause musicale avec un morceau un peu péchu, s'il vous plaît, avec Chômeur branleur des vulves assassines.
Bon retour dans les arpètes. Aujourd'hui, c'est grève ou gré-vacances chez nous parce qu'on parle des travails avec le collectif Travailler Moins.
On vient de terminer du coup nos retours sur le livre Contre le travail, pardon, de
Giuseppe Renzi.
Renzi. Je l'appelais Renzi tout le long parce que j'arrivais pas à prononcer son prénom. Et du coup, bah, on est toujours avec Myriam et David du collectif Travailler Moins. Pour la partie discussion.
C'est quoi les élections régionales ? J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste.
C'est génial ce truc. Bon, du coup, le bouquin se termine avec en conclusion que finalement le problème du travail est insoluble, mais j'imagine que si le collectif Travailler Moins existe, c'est que vous avez pu esquisser quelques réponses ou au moins des pistes d'amélioration sur cette question.
Alors oui et non. Je vais juste dire un petit truc, c'est que souvent, c'est pour ça aussi que j'avais bien aimé Contre le travail. Souvent on nous fait la remarque, mais qu'est-ce que vous entendez par le travail ? Et c'est une question qui m'énerve un petit peu, parce que là on est dans un contexte où Pôle emploi se transforme en France Travail prochainement.
Ouais,
effectivement, avant, on pouvait dire que le mot travail, il était polysémique. Il avait plusieurs termes. Les auteurs ne sont pas d'accord d'ailleurs sur ce que ça signifie. C'est pour ça que moi, j'aimais bien l'auteur. Là, il parle du travail. On a compris, c'est ce qui nous rend esclaves d'un patron. Et aujourd'hui, le travail dans l'esprit de tout le monde, c'est bien ça. Du coup, nous, le collectif Travailler Moins, quand on parle de travail, on parle bien de l'emploi, de ce qui nous rend esclaves. Et donc, nous, on a plusieurs mesures qui tournent autour du travail. Mais on a bien conscience qu'il y a toujours quand même cette question de la définition qui n'est pas très claire. Mais nous, en fait, cette question de la définition, pardon, on la laisse aux philosophes, aux sociologues qui se prennent le chou là-dessus. Par contre, ce qu'on note quand même chez tout le monde, c'est qu'on est presque tous d'accord, c'est qu'il faut réduire le travail. Et c'est là où nous, on intervient. On ne veut plus trop débattre du terme travail. Nous, ce qu'on veut, c'est porter des mesures qui parlent aux gens, ou en parler, faire des prises de position, faire un petit peu de lobbying auprès des institutions ou même des entreprises, lors d'événements ou dans les médias, etc., ou comme ici. Et porter des mesures sur le travail. Et donc, les mesures, nous, qu'on porte, bah, ce n'est pas une mesure, mais déjà, on aimerait bien qu'on laisse le RSA tranquille. D'après nous, ce n'est pas du tout la priorité. Mais bon, c'est apparemment mieux que la lutte contre l'évasion fiscale. Nous, ce qu'on portait depuis un moment, c'était la réduction du temps de travail. On parlait beaucoup de la journée de 4 jours. Et maintenant, en fait, ça nous dérange.
La semaine de 4 jours.
Oui, pardon. Ben, en fait, au fond, on aimerait bien.
La journée de 4 heures.
Voilà, c'est ça. Donc, on porte la semaine, on portait la semaine de 4 jours, mais maintenant, ça a beaucoup été repris. Mm. Donc finalement, nous, on préfère parler de la semaine de 28 heures ou même plutôt la semaine de 3 jours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont en tête la réduction du temps de travail, c'est la semaine de 4 jours, mais qui condensent cette semaine. En, voilà, il y a des gens qui feraient 40 heures en 4 jours, je l'ai beaucoup entendu.
C'est ce qu'avait tenté la CAF, je crois, en proposant à ses salariés de faire 35 heures en 4 jours, et ils étaient étonnés que personne n'ait voulu tester le dispositif.
Ça a été mis en place pour les cadres de l'URSSAF, en Picardie, je crois, et là, effectivement, c'est une réduction du temps de travail qui est calquée sur le modèle belge, à savoir non pas une réduction du temps de travail, mais une compression du temps de travail. Donc à ce moment-là, ça fait des journées de 9 heures et ce modèle n'est pas viable. Très concrètement, si on a des enfants, les crèches sont fermées, on ne peut plus faire de courses. Et si j'étais un petit peu parano, je me dirais qu'ils proposent une solution qui ne fonctionne pas pour que le gouvernement puisse dire « Ah ben voyez, on a essayé et ça ne marche pas ». Donc là, ce qu'ils essayent, c'est vraiment la meilleure manière de prouver que la réduction du temps de travail ne fonctionne pas. Parce qu'il s'agit de compression de temps de travail, non pas de réduction. Et ce qui est important, c'est que après, au niveau, par rapport à cette réduction du temps de travail, évidemment, au niveau, enfin à gauche, on n'est tous pas d'accord. Certains pensent que c'est une mesurette, d'autres pensent que c'est une mesure qui est importante. Nous aussi, ce qu'on a constaté avec le collectif Travail et Moins, lorsqu'on a fait la journée du détravail, c'est que ces problématiques-là du détravail sont aussi des problématiques de personnes surdiplômées, de Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Et il faut aussi qu'on fasse entendre notre message à des personnes qui travaillent, qui ont la tête dans le guidon, qui ont un enfant, qui gagne le SMIG et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et cette réduction du temps de travail, à savoir 4 jours de travail par semaine, 32 heures payées 35, permettrait déjà d'alléger un petit peu la surcharge et la souffrance au travail. Voilà, par rapport à cette notion de réduction du temps de travail.
Par rapport à d'autres mesures, nous, évidemment, on aimerait mettre en place le droit au temps partiel. Toutes les personnes qui ont envie d'avoir le droit, enfin, le temps partiel, puissent y accéder. Il y a un sujet qu'on aime beaucoup, enfin, que j'aime beaucoup, parce que, comme vous le savez, j'aime beaucoup le sommeil. J'en ai parlé tout à l'heure. Et nous, on n'aime pas trop le travail la nuit. Parce qu'on considère, comme Renzi d'ailleurs, et comme beaucoup de gens un petit peu rationnels, c'est que la nuit, c'est pour dormir. Et on constate qu'il y a plein de métiers qui sont complètement inutiles la nuit. Donc évidemment, je ne parle pas des soignants, de la sécurité. Voilà, il y a plein de choses qui sont très utiles la nuit. Mais déjà, pour ces personnes, revaloriser leur travail la nuit, parce qu'on voit souvent que ces derniers temps, il y a une casse sociale sur ces métiers-là. La nuit, maintenant, ils ont une très faible majoration, ils ne sont pas pris en considération, etc. Donc on voudrait déjà une revalorisation de ces métiers de la nuit et aussi un questionnement de certains métiers. Donc nous, on prend souvent l'exemple du boulanger. Je ne vois pas l'intérêt de faire du pain à 6 heures du matin.
Un à pain 4 heures.
Oui, à 4 heures du matin pour des personnes âgées qui sont isolées et qui viennent le chercher à 6 heures, justement, alors que le pain est congelé. Et qu'il n'est même plus bon une heure après. Donc voilà, nous, l'idée, c'est de proposer des mesures qui parlent, mais qui en même temps questionnent aussi notre modèle de production et du coup aussi notre modèle de consommation. Et il y a une autre mesure qu'on parle et qui s'adresse plutôt au cadre, qui est parfois aussi au cadre précarisé, c'est le forfait jour. Nous, on souhaiterait l'abolition totale de ce contrat qui représente pour nous... le fait de ne plus avoir de contrat horaire, puisqu'en fait, pour vous expliquer ce qu'est le forfait jour, c'est un contrat où vous travaillez, vous n'avez pas de temps de travail. Vous pouvez faire une journée de 2 heures comme une journée de 15 heures. C'est ça, c'est un contrat qui est proposé pour les cadres en général, et les gens sont payés à la journée. Et donc, l'utilisation de ce contrat fait qu'on a beaucoup de gens qui se retrouvent à faire 50, 60 heures, plus. Et je constate aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont sous ce contrat, mais qui malheureusement ne sont pas cadres. Donc finalement, il a été complètement dévoyé. Son utilisation première n'est plus ce qu'elle était. Et en plus, il devient tout à fait naturel de se dire on ne paye plus les gens à l'heure de travail, au temps de travail. On les paye à travailler.
Ah oui, je ne savais pas du tout que ça existait, ce contrat Parce que moi, j'ai toujours entendu dire mes potes, bah oui, c'est normal, je fais, enfin, j'ai pas d'horaire de fin. En fait, pour justifier qu'ils travaillaient jusqu'à des fois 22 heures, bah oui, je suis cadre. Alors qu'en fait, c'est pas. Ça pourrait être aussi pour justifier, bah oui, c'est normal, j'ai travaillé 2 heures dans ma journée. Et en fait, non, ça va toujours dans le même sens. En fait, ça va toujours dans le sens des patrons. Ouais. Et on a réutilisé plusieurs fois le mot détravail, mais je crois que depuis le début de l'émission, on ne l'a pas. On ne l'a pas bien défini, en tout cas pas comme vous l'avez défini avec le collectif. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour là-dessus ?
Eh bien, je vais vous redonner la définition. La définition du détravail, c'est un processus individuel et collectif de désengagement volontaire au travail marchand. Donc, c'est une définition qu'on a écrite avec le collectif Travail et Moi. Pour vous expliquer, le mot détravail, c'est un mot qui existait avant la création de notre collectif. Mais c'est nous qui l'avons repris pour en faire cette définition, parce qu'avant il n'existait pas pour parler de voilà de travailler moins finalement. Donc ça a été une de nos grandes missions, ça a été de faire du lobbying contre la valeur travail pour porter une autre valeur qu'on appelle le détravail. Donc nous on est très heureux d'être là ce soir et de parler du détravail. Et de voir que de plus en plus de gens utilisent ce terme, puisque finalement, c'est un mot que nous avons porté sur la scène nationale. Et on voit que maintenant, il y a plein de radios, plein d'émissions, même à la télévision, ils utilisent le détravail, mais malheureusement, pas toujours avec cette définition qui est pourtant celle que l'on a créée.
Puis il y a aussi, dans cette notion de détravail, aussi une notion de décroissance. Cette notion de décroissance, aussi une thématique qui est plutôt consensuel au sein du collectif et aussi de toutes les structures qui critiquent cette valeur travail, à savoir, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure lorsqu'on parlait du livre de Renzi, à savoir que si on modifie ou si on réforme le travail, il faut aussi réformer d'autres domaines, à savoir la consommation, parce que ce qui est remis en cause avec la valeur travail, c'est tout ce cercle non vertueux, à savoir travailler plus pour consommer plus, pour polluer plus, etc. Et on constate aussi qu'il y a plus de liens qui se font entre les problématiques environnementales et les problématiques liées au travail, à savoir que je crois qu'on n'a pas encore utilisé le mot depuis le début de l'émission, c'est étonnant, à savoir le capitalisme, et que le capitalisme finalement épuise les ressources naturelles et les ressources humaines. Et donc, cette notion aussi de déconstruire le travail et aussi de déconstruire la consommation et de collectivement aussi être dans un cercle un petit peu plus vertueux.
Et du coup, au niveau consommation, ça me fait penser à... Il y avait une étude qui est sortie. Alors, je m'en souviens, mais je n'ai plus le nom de l'étude. Donc, il faudra fact-checker. Une étude qui était sortie sur le salaire, en gros, médian, qui permet de bien vivre et en même temps qui ne pousse pas à la surconsommation. Et l'étude, il me semble, c'était environ 2000 euros par mois. Est-ce que du coup au collectif Travail et Moins il y a aussi une réflexion sur le salaire maximum, le salaire minimum, qu'est-ce que ça peut engendrer et notamment les écarts de salaire aussi, qu'est-ce que ça traduit du travail?
Eh ben nous on porte souvent lors des invitations qu'on reçoit dans les médias le salaire maximum qui est pour nous pourquoi pas déjà bloqué à 50 000 euros par mois. Et en fait, on remarque que ça peut choquer quand même une certaine partie de la population.
Vous, 50 000 par mois.
Ouais, mais en fait, je ne connais plus le pourcentage. Je l'avais en tête. 50 000 personnes qui touchent plus que 50 000 euros par mois.
Ok,
d'accord.
Donc, vous voyez, en fait, je me suis exprimée avec un média plutôt lié à l'économie, le média Management Magazine. Et la personne, elle était extrêmement choquée, parce que du coup, elle n'est pas du tout dans ces réflexions-là au quotidien. Et elle m'a dit, c'est la réflexion qu'on a souvent, on ne peut pas empêcher les entrepreneurs de recevoir... l'argent qu'ils ont investi, le risque, la notion de risque. Mais c'est ça aussi que nous, on remarque, c'est souvent pour justifier ce genre de choses, les personnes citent la vision de l'entrepreneur qui prendrait un risque énorme, alors qu'en fait, la majorité des entrepreneurs en France sont souvent des gens qui ne prennent pas trop de risques parce qu'ils ont hérité de l'argent ou ils sont déjà extrêmement riches. Et tout le monde a en tête le petit mec qui a tenté d'ouvrir sa boutique et qui a pris beaucoup de risques, alors que c'est une minorité d'entrepreneurs aujourd'hui. Donc bon, voilà, il y a beaucoup de choses à décorréler, à décortiquer, à déconstruire avant de pouvoir proposer ce genre de mesures, même si 50 000 euros, bah, ça paraît déjà beaucoup.
Ça paraît trop.
C'est mille fois trop.
Oui. Je suis choquée. Moi,
il faudrait, pas, il faudrait déjà plus de 2 ans de travail pour arriver à ça. Alors,
Moi, j'ai une question, mais alors je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais je trouve ça très difficile de débattre de cette question du travailler moins avec des gens qui sont... bon, avec nos parents, hein, on va...
Je vais le dire, désolée s'ils écoutent l'émission.
Mais parce que c'est tellement pas la... dans leur réflexion, ils n'ont jamais été dans des milieux qui réfléchissent comme ça, comme nous, à vouloir travailler moins ou alors vouloir mettre une année de chômage entre 3 années de travail ou des trucs comme ça. Ils sont presque choqués par ce genre de décision. Et comment est-ce qu'on fait comprendre que c'est OK et quels sont vos arguments?
Moi,
je suis en train de me perdre. Mais...
Non, moi, vas-y. J'argumente plus, je perds plus de temps à ça, parce que je suis toujours dans une posture de me justifier. Et parler de la valeur travail est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et voilà. La preuve, c'est extrêmement...
Fait, ouais. Je pense que l'argument qu'on me renvoie au visage le plus souvent, c'est « mais en fait, c'est pas possible. S'il y a autant de... si tout le monde travaille autant, c'est qu'il faut remplir cette fonction travail. » Donc, on a un peu parlé des bullshit jobs tout à l'heure, mais j'aimerais bien avoir quelques arguments clés, moi, pour répondre du tac au tac, ouais. Dire en fait, si ce serait faisable. Un peu comme pour le revenu universel de base aussi, j'aimerais bien les arguments clés pour ça.
Je ne sais pas si c'est l'argument, par exemple, d'être faisable ou pas, mais déjà, c'est contre-intuitif de demander aux gens de travailler plus parce qu'on est dans une situation quand même de chômage important. Mmh. On voit bien qu'on ne pourra jamais, malgré ce que souhaite Macron, atteindre un monde sans chômage. En fait, le chômage, maintenant, il est là, il est structurel. Si on veut vraiment partager l'emploi, et ça, c'est un argument que j'utilise souvent, si on veut partager l'emploi, si on veut réduire au moins un petit peu les inégalités sociales, un minimum, il va falloir travailler moins.
Ouais,
ça tombe sous le sens.
Il y a cette notion de France à 3 vitesses, où à la fois les personnes sont à temps plein et qui sont en souffrance au travail, en burn-out. Enfin, c'est des coûts extrêmement importants au niveau de l'État, la souffrance au travail, le burn-out, les troubles musculo-squelettiques. Donc à la fois une France qui est à temps plein et qui est épuisée, une France à temps partiel qui est précarisée et des chômeurs qui n'ont absolument pas de travail, par définition. Donc réduire le temps de travail, c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie souvent de dire, réduire le temps de travail permet aussi de le partager. Parce qu'on est passé, entre les années 70 et de nos jours, de 400 000 chômeurs à 6 ou 7 millions. Donc le chômage est monstrueusement haut, il le sera toujours. C'est ce qui permet aussi de baisser les salaires. Je dis rien. Donc voilà, cette notion de réduction de travail, c'est pas simplement un besoin de travailler moins, c'est surtout une nécessité de travailler tous, en fait.
Après aussi, je sais que c'est pas facile d'argumenter, mais je pense que même la génération de nos parents, ils ont eu envie de passer un peu de temps avec leurs enfants. Ils ont eu envie quand même de profiter un petit peu et de faire des petits rappels aussi sur l'évolution de leurs conditions et de nos conditions de travail. Parce que je suis toujours surprise, et c'est quelque chose qui peut beaucoup m'énerver, d'entendre des personnes âgées dire « moi, en mon temps, ça bossait ». C'est une contre-vérité. La réalité, c'est que depuis les années 60, nous sommes dans une intensification du travail. C'est-à-dire que nous, on a de moins bonnes conditions de travail que nos arrière-grands-parents, que nos parents, que nos grands-parents. Et ça, en fait, les gens ne l'ont pas en tête. Les gens imaginent que nous avons un travail qui est meilleur, qu'on parle de progrès social, de meilleure qualité de travail et de vie au travail. C'est faux. Aujourd'hui, en fait, les conditions de travail sont catastrophiques, notamment aussi liées aux procédures, parce qu'il y en a de plus en plus, et à la numérisation. Le numérique a créé des choses assez graves, et à la financiarisation, etc. Donc, nos conditions de travail ne sont pas celles de nos parents.
ça nous fait quelques arguments à mettre sur la table au prochain repas de famille.
Oui, j'aurais voulu parler encore de tellement de choses, genre le revenu universel ou ce genre de choses, mais...
Ça, on pourra faire une émission complète dessus.
On pourra faire une émission complète dessus, complètement. Voilà, ce sera super intéressant.
Renzi, il a écrit d'autres bouquins. Hein.
Alors non,
on prendra un autre auteur.
Vous l'avez sauvé, mais non. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclairages.
Merci à vous.
Merci à vous. Autant niveau arpentage que discussion, c'était passionnant. Et ça fait des billes en plus à nos auditeuristes pour changer la face du travail. On se retrouve en manif pour défendre la semaine de 4 heures et exploser le capitalisme. On vous retrouve pour la librairie des arpèdes juste après « Je refuse de travailler » de Sexy Sushi. Vous êtes bien sur Prune 92 FM.
Arrivez à la fin de votre brunch littéraire et on vous propose quelques petites références culturelles pour décapiter le patronat en buvant votre tasse de thé.
À la bibliothèque.
Alors, on avait déjà un documentaire sur André Gortz qui s'appelle « Lettres âgées, repenser notre société avec André Gortz », qui est un film de Charline Guillaume, Pierre-Jean Perrin et Julien et Victor Tortora. Il est paru en 2019 et vous pouvez le trouver gratuitement sur l'internet. Il est très très intéressant et ça vulgarise pas mal les propos d'André Gortz. Et on a une proposition de notre cher Léo, la BD « Désobéisseur, entretien avec des agents du service public » de Benjamin Adam, Camille Burger et Damien Roudeau, et qui raconte la perte de sens de certains métiers du service public, où quand les employés doivent littéralement désobéir à leurs directives pour bien faire leur travail. Et puis aussi une petite note, en gros, tous les livres de la sociologue Maud Simonet, qui est directrice d'un labo de recherche à l'Université de Nanterre et chargée de recherche au CNRS, et qui a beaucoup travaillé sur le travail gratuit et le travail associatif. Notamment un de ses essais qui s'appelle « Travail gratuit, la nouvelle exploitation », paru en 2018. Je crois que vous aviez apporté une petite bibliothèque aussi de votre côté.
Moi, non. Je le dis de mémoire. Un livre à recommander, parce que j'avais évoqué la réduction du temps de travail, la semaine de travail à 4 jours. Il y a un livre qui est extrêmement bien conçu sur cette thématique-là, écrit par M. Laroux-Curoux. Je dis monsieur parce que je ne me souviens plus de son prénom.
Je crois que c'est
Pierre ou Paul, je ne sais plus.
C'est Pierre.
Et crois. Dominique Méda. Le livre s'appelle « Einstein avait raison, il faut réduire le temps de travail ». Monsieur Laroux-Curoux était aux manettes du Parti Socialiste lorsqu'il y a eu le passage aux 35 heures. Donc, il fait un auto-bilan très lucide sur ce qui a fonctionné et pas fonctionné sur le passage aux 35 heures, donc ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ce qu'on peut mettre en place pour que justement la semaine de travail de 4 jours soit mise en place. Et c'est très simple, beaucoup plus simple que Renzi, et c'est vraiment très pédagogique et très bien expliqué. Donc si vous voulez militer pour la réduction du temps de travail, vous lisez ce bouquin, oui. Et vous aurez toutes les infos. Et un film, Soleil Vert, qui est sorti en 1974, de Richard Fleischer. C'est un livre qui est sorti après le rapport Meadows. Le rapport Meadows, c'est un rapport qui est sorti en 73 ou 74 et qui a été le premier rapport qui a fait le lien entre le capitalisme et les destructions environnementales. Et les scénaristes de ce film-là sont tombés sur le rapport Meadows. Ça les a fait flipper. Ils ont écrit cette histoire Soleil Vert qui parle d'une histoire complètement incroyable où l'histoire se passe en 2022 et il y a une énorme canicule qui frappe les États-Unis et c'est le début du film, j'en dis pas plus parce que il faut absolument pas spoiler. Donc le scénario était quand même extrêmement visionnaire sur le réchauffement climatique en 2022, tout le monde se souvient de l'été caniculaire qu'on a eu. Voilà pour moi.
Je ne sais pas si vous allez me faire confiance après le livre pour suivre mes références. Mais en tout cas, je vous conseille en termes de films, par contre, les films de Ken Loach, qui sont toujours quand même assez inspirants. Un film qui s'appelle « Attention, danger, travail ». Et sinon, en termes de livres, donc faites-moi confiance, vraiment, je vous donne des livres super simples, qui sont super sympas. « Te plains pas, c'est pas l'usine ». C'est un livre sur l'exploitation en milieu associatif. C'est une petite édition niette et qui a fait un travail très simple, et qui va toucher beaucoup de monde, notamment les bénévoles, mais aussi tous ceux qui travaillent dans l'associatif et qui sont précarisés au quotidien.
Les services civiques aussi.
Exactement.
Les stagiaires.
Tout ce beau monde dans l'associatif. On a parlé d'André Gortz. Moi, je suis une grande fan d'André Gortz, mais par contre, la réalité, c'est que c'est très dur à lire. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est un petit livre de Françoise Gollin qui reprend certains de ses textes et qui prend les parties les plus simples. Et là, il y a quelques petites explications. Après, moi, j'adore Gortz, mais je trouve ça un petit peu inquiétant qu'en ce moment, on ne parle que de lui, parce qu'il y a plein d'autres auteurs, et c'est pour ça que j'avais choisi aussi le livre « Contre le travail ». C'est qu'il faut faire attention aussi à la pensée plurielle, et à ne pas dire « bon, bah, on va lire André Gortz, et seulement Gortz ». C'est bien, je trouve, de chercher plein d'auteurs et d'avoir plein de vues différentes, parce qu'il ne faut pas oublier que Gortz était un philosophe. Donc c'est bien d'avoir d'autres points de vue. Et j'ai pas son livre, mais il y a Baptiste Milondo, qui est un super auteur, qui est un jeune en plus, et qui a l'air très sympa. Sinon, un livre culte, c'est Le droit à la paresse. On en parle pas mal, et Sandrine Rousseau, elle utilise souvent le terme Le droit à la paresse. Pour moi, le livre est plutôt simple, mais maintenant j'ai un peu peur de dire ça. Mais en tout cas, il est court, et vous pouvez, je pense, en lire que quelques petites parties. Ça vous donne quelques clés pour parler de ce sujet. Et sinon, ma BD préférée, vraiment, c'est un coup de cœur plus. C'est le livre de David Snug. C'est une BD, c'est très facile à lire. Ça, je trouve, ça explique bien notre positionnement en tant que collectif Travail et Moins. Ça s'appelle « Dépôt de bilan de compétences ». C'est un peu absurde, mais c'est rigolo.
Super, merci beaucoup.
Très Charlie Chaplin sur la... sur la couverture,
c'est oui, ça complètement.
Parce qu'il faut savoir que Myriam est venue avec sa bibliothèque en physique. C'était un vrai truc. D'ailleurs, si je peux repartir avec le deuxième que tu as cité, moi, il m'intéresse bien. Et bien sûr, pour nos auditeuristes, on vous remettra toutes les références sur la page d'émission, comme d'habitude. Comme ça, même les titres compliqués qui ont été cités et les noms de personnes un peu inaudibles, vous pourrez les retrouver quand même. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Nous, on a bien fait travailler nos méninges et les vôtres suffisamment pour un samedi, qui plus est. Un grand merci à nos invités, Myriam et David du collectif Travail et Moins, qui ont accepté de se prêter à l'exercice de l'arpentage et nous ont aidés à déblayer un petit peu ce vaste sujet qui est le détravail. Merci à Léo aussi, que vous n'entendez pas, mais qui est toujours en poste pour nous aider à préparer les émissions et à assurer la technique. Rendez-vous sur prune.net pour retrouver cette émission en podcast et toutes nos autres émissions. Et sur Instagram, @lesarpettes.podcast. Et on se retrouve le 3 juin à midi pour un nouvel arpentage sur le 92 FM. Au revoir tout le monde. Bye bye.
Salut.
Salut.
Salut, au revoir.